Donc on va essayer de vous emmener en voyage avec nous. On a parlé de temps et récit, on va essayer de parler d'espace et récit, et en particulier dans l'espace canadien. La première chose à dire, c'est que c'est un travail, on va savoir pourquoi c'est en noir, mais c'est un travail collectif. L'ensemble des membres de la chaire ont participé. C'est Servane et moi qui présentons, mais c'est un peu tout le monde qui est impliqué. On pense toujours à un groupe. Alors, l'année dernière, en mai, en juin, le congrès de la Fédération canadienne pour les sciences humaines et sociales était à Calgary. Alors, en tant qu'Européen, pour moi, Calgary était quelque chose d'assez étrange. Et en fait, je me suis rendu compte que, pas seulement pour moi, Européen, mais aussi pour la quasi-totalité des Québécois, c'est-à-dire que Calgary est quelque part dans « the rest of Canada », loin. Donc, première chose, pour aller à ces congrès, on s'est dit, très bien, comment on y va? Première réaction, on cherche sur Google. Google nous dit, allez-y en avion. Très bien. Et c'est ça qui nous a tout de suite un peu titillé. On a dit, très bien, pourquoi il faut y aller en avion? C'était un peu comme si tout ce qu'il y avait au milieu entre Montréal et Calgary n'était pas vraiment intéressant. Et en plus, comme si la décision de comment envisager cet espace avait déjà été prise par l'algorithme de Google, ça nous faisait un peu chier. Donc la chaire décide d'aller à Calgary nous interrogeons sur ce que c'est que cet espace-là, espace qui nous semble, pourrait au moins sembler un espace complètement vide, comme nous le disaient la plupart des Québécois qui nous disaient « Non, mais t'es sérieux là? Tu veux vraiment aller en voiture à Calgary ?» Et oui, il n'y a rien par là. Bertrand était un de ceux qui disait ça. Donc, et en fait, on a vu que peut-être il n'y avait rien, mais en fait, l'espace numérique, au moins, lui, il était hyper plein. L'espace de Google, de Google Maps, de Wikipédia, de toute une série de plateformes. C'est-à-dire que cet espace existait au moins de façon très très pleine dans les infrastructures numériques. Donc, nous nous sommes interrogés un petit peu sur la relation entre l'espace numérique auquel nous avions affaire immédiatement, Google Maps, etc. Mais première réaction, hein, même si je dois venir à l'UQAM, je cherche sur Google Maps et pour regarder quel métro prendre. C'est-à-dire que cette infrastructure a une place prépondérante dans notre façon de toucher l'espace. Et alors, nous nous sommes demandé quelle est la relation entre cet espace-là, qu'on touche, qui est bien réel, qui est le premier auquel nous avons affaire dès que nous nous interrogeons sur un espace, où est Calgary, c'est quoi Calgary, Google Maps, et l'espace non numérique, qui du coup, vous voyez, n'est défini que en négation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'espace réel, l'espace non réel, c'est l'inverse. L'espace réel est l'espace numérique, puis l'espace non numérique.
Voilà, donc je prends le relais, alors moi je parle en restant assis, c'est moins drôle, mais Marcello va continuer la chorégraphie. La France canadienne s'est donc imposée à notre attention comme un topos de l'imaginaire littéraire, tandis que nous recensions... Alors pardon, parce qu'en plus du coup, il m'a complètement perdu. Donc, pardon, l'infrastructure réelle, ou en tout cas dite réelle, qui correspond à la route, à ses motels, à ses aires de repos, se mêle, selon nous, à une série de discours, et en particulier au discours littéraire, c'est sur celui-ci que nous nous sommes principalement concentrés, donc l'imaginaire et le discours littéraire qui créent l'imaginaire de l'autoroute transcanadienne. La littérature, il faut bien garder ça à l'esprit, a toujours joué un rôle essentiel dans la construction d'espace, et c'est pourquoi nous avons choisi de considérer dès le départ la transcanadienne comme un espace littéraire, à travers une double perspective, donc évidemment le road trip, et d'autre part la question de la francophonie. Alors le road trip, de toute évidence, a joué un rôle essentiel dans notre projet de traversée de la transcanadienne. On peut l'identifier, ce thème du road trip, à une série d'écrivains, tout à l'heure. Donc Kerouac, Steinbeck, Hitmoon ou encore Jacques Poulain au Québec, dont l'influence, merci, sur l'imaginaire nord-américain a été considérable. Ce voyage surtout nous a permis de mettre au jour un corpus littéraire largement sous-estimé et très peu étudié. Cette route qui traverse le Canada et qui relie entre eux des territoires et des cultures parfois un peu différentes a été abondamment traitée dans la littérature francophone, où cette route incarne, en tout cas symbolise, la difficile conciliation entre les cultures francophones et anglophones. Tel que le dit Patrice Desbiens, il fait beau à Montréal et il fait beau à Sudbury, et entre les deux, ça fait toujours mal quelque part. Il dit encore, à la radio, un Anglais prononce idéo comme idiot. À la radio, une Québécoise nous dit que Art Rouge est originaire du Nouveau-Brunswick. Sur le complexe G, les assiettes radars sont grosses comme les oreilles du prince Charles. Est-ce que je suis content de rencontrer une Québécoise à un party à Sudbury qui me répond en anglais à chaque fois que je lui parle en français ? Est-ce que je suis heureux de voir un couple, un peuple se battre sur la glace mince de ses espoirs, un peuple payé pour se battre devant les spectateurs qui se réveillent juste pour les batailles et vont pisser durant les beaux jeux ? Je ne sais pas si je devrais sauter dans l'autobus pour Sudbury ou sauter devant l'autobus pour Sudbury. Donc la transcanadienne, dans ses récits, est ce qui traverse et relie le Canada, mais sans toujours très bien parvenir à l'assembler. Donc la transcanadienne s'est imposée à notre attention comme un topos de l'imaginaire littéraire, tandis que nous recensions parmi toutes nos lectures les plus récentes une série de textes qui lui étaient consacrés. Je cite un peu en bazar, mais il y en a plein d'autres, sur la 132 de Gabriel Anthil, Pays de personne et les poèmes anglais de Patrice Desbiens, Toutes mes solitudes de Marie-Christine Lemieux-Couture. Et en même temps que nous étudions un petit peu cet espace, nous essayions de repérer sur la carte les lieux où avait vécu par exemple Gabriel Roy ou encore Nancy Houston. Donc sans aucun doute, cette route avait vraiment tout le potentiel pour accueillir une sorte de promenade littéraire absolument géante. D'autre part, il faut noter qu'il existe à l'heure actuelle une tendance dans la littérature contemporaine à réfléchir à la façon dont les outils numériques façonnent notre monde et aux conséquences d'une telle influence. Beaucoup d'écrivains ont investi les logiciels cartographiques de Google pour en faire des embrayeurs fictionnels, tandis que ces logiciels ont en retour influencé leur travail formel d'écriture. Donc ces projets ont bien sûr donné lieu à des œuvres hypermédiatiques. On a parlé tout à l'heure du travail de Cécile Portier avec Étant donné, mais aussi Trac-Trace. Je pense aussi à une traversée de Buffalo de François Bon. Ces outils ont aussi intégré la production romanesque non numérique, c'est important de le citer. On peut penser à Programme sensible d'Anne-Marie Gara ou encore Un mage en été d'Olivier Cadio. Donc tandis que le numérique est en train de modifier notre conception de l'espace, ces projets réinvestissent le road trip tout en actualisant les problématiques du genre, comme notre conception de l'espace ou de la vitesse. Notre inspiration principale reste probablement Les Venir de Pierre Ménard et Anne Savelli, qui ont effectué le trajet Paris-Marseille, tout d'abord sur Street View, avant de refaire ce même trajet en train par la suite, donc dans le monde dit réel, même s'il y a plusieurs strates, et c'est ça un petit peu le but de cette œuvre. Donc, notons une chose, c'est que cette source d'inspiration majeure était elle-même redevable d'une expérience similaire et déjà un peu plus ancienne, puisque avant Anne Savelli et Pierre Ménard, on peut citer que ce même voyage Paris-Marseille avait été effectué par Cortazar et Claire Van Lop dans un ouvrage intitulé « Les autonautes de la cosmonaute ». L'intertexte dans lequel nous nous inscrivons excède donc largement la période numérique et trouve un ancrage dans une problématique beaucoup plus générale de l'espace. Qu'est-ce que cet espace ? À qui appartient-il ? Comment le maîtrise-t-on ? Il s'agit là d'une problématique assez ancienne dont les termes se sont réactualisés au cours du temps.
Oui, voilà, les problèmes étaient, je veux dire, moins bien que ce que tu as déjà dit, mais les problèmes étaient de savoir de qui est cet espace. Là, les questions politiques que j'évoquais ce matin étaient très fortes, c'est-à-dire que la présence très forte de certaines plateformes, dont Google Maps le premier, mais en fait TripAdvisor, Wikipédia, Expedia et d'autres, dans la construction de cet espace et dans notre façon de pouvoir avoir des relations avec cet espace, nous a vraiment défié. C'est-à-dire, ok, mais est-ce que l'espace entre Montréal et Calgary appartient de fait à ces infrastructures-là qui le façonnent de façon forte. Et du coup, comment ces infrastructures numériques, quel est le rôle que jouent ces infrastructures numériques ? Pas seulement dans notre façon de... ce ne sont pas des représentations, ce sont vraiment les outils avec lesquels nous habitons ces espaces. C'est ça la question. À différence d'une carte papier, ces outils-là deviennent de plus en plus des outils avec lesquels nous vivons dans l'espace. Et la troisième question, c'est donc comment on peut, nous, devenir protagonistes de cet espace, c'est les rapproprier. Est-ce que nous sommes complètement passifs devant ce que fait Google ou TripAdvisor, etc., etc. Ou est-ce que nous avons une manière pour reprendre la main sur cet espace ? C'est toi.
D'où à nouveau la question du rôle de la littérature.
Je vais prendre une chaise quand même.
Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les autoroutes avaient renouvelé notre façon de produire notre espace et de lui donner un sens. La transcanadienne a été ouverte en 1962 et illustrait alors la volonté de produire un espace traversable où peuvent passer rapidement des marchandises et des personnes. C'est le sens même de cette infrastructure et de ses valeurs associées que contestèrent en 1982 Cortazar et Dunlop dans leur road trip d'un nouveau genre, qui était lui plus ouvertement préoccupé par une réflexion sur les enjeux politiques de la construction spatiale. Dans les autonautes de la Cosmoroute, Cortazar et Dunlop avaient pour objectif de détourner le sens premier de cette infrastructure, la vitesse et la rapidité. Donc ils avaient programmé un voyage d'un mois sur l'autoroute Paris-Marseille, qu'ils ont passé à documenter, à photographier, à écrire, afin d'en modifier profondément le sens, en torpillant finalement de l'intérieur ses objectifs et ses valeurs. Si aujourd'hui, notre espace reste en partie structuré par ces autoroutes et par leurs valeurs implicites, il subit par ailleurs l'influence de plus en plus vive des nouvelles infrastructures numériques, dont Google Maps n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À l'espace de la vitesse d'un côté, les autoroutes qui permettent donc d'être efficaces et productives selon des valeurs capitalistes, se marie l'espace presque entièrement contrôlé, géré et visible de Google Maps avec des valeurs de traçabilité et de connaissances basées sur les raw data, symptomatiques d'une certaine culture de la Silicon Valley. Donc de fait, aujourd'hui, ce n'est plus tant l'infrastructure autoroutière qu'il faut questionner et donc détourner, mais bien l'infrastructure numérique qui marque un nouveau tournant dans la production de l'espace.
Donc nous sommes partis en voiture avec tout un groupe d'étudiants. Certains étaient dans la voiture, certains étaient dans l'avion, certains étaient dans un train et certains, comme Serman, étaient au lit avec Google Maps ouvert. Et en fait, qu'est-ce que nous avons trouvé sur la route? Et c'est ça qui est important. Sur la route, nous trouvons un objet éditorialisé. C'est-à-dire que ce que nous arrivons à remarquer, ce que nous arrivons à remarquer, c'est qu'en fait, cet espace n'est pas, il n'y a pas du tout d'un côté l'espace, disons, les territoires, je ne sais pas, l'espace physique ou un truc comme ça. C'est pas du tout comme ça que nous faisons de l'expérience de cet espace, mais c'est plutôt un objet un peu multiforme et multicouche où il y a plusieurs couches qui structurent et qui nous construisent la réalité. Et un objet idéalisé, qu'est-ce que je veux dire par idéalisé? Je me cite. Parce qu'il y a un marque effect qui fait que le plus on cite, le plus on est cité. Donc je monte aussi pour déclencher l'effet. Donc, l'idéalisation, c'est un travail aussi collectif. Je mets mon nom, mais Nicolas, par exemple, qui est là, a beaucoup contribué à cette définition de ce concept que j'aime bien. Et Pierre l'a utilisé tout à l'heure, je suis content. Tu aurais dû me citer, par contre. Donc, l'idée de l'idéalisation est de penser l'ensemble des dynamiques qui produisent et structurent l'espace numérique, mais où cet espace numérique n'est pas un espace isolé, mais un espace qui est connecté ou non connecté, mais influencé par les technologies numériques. Donc ça, c'est l'idée de fond. Donc c'est que nous écrivons, mais aussi des infrastructures qui sont là, les algorithmes, les plateformes, mais aussi des personnes, des endroits, des modèles. Voilà, ça c'est l'ensemble de ce qu'on entend par ces dynamiques-là qui mettent en fait en relation des objets connectés ou non connectés, des écritures, des lectures, des plateformes. Alors concrètement, ça veut dire quoi?
Donc concrètement, on avait des cartes numériques et non numériques, des récits littéraires, historiques, privés, touristiques, ensuite, des images, beaucoup de photos, de vidéos, des personnes, donc ça c'est l'équipe qui a pris la route.
À l'aller, parce qu'au retour, on était une autre équipe.
Des motels, des restaurants, si quelqu'un se demande qui a mangé ça, il est là.
Je n'étais pas les seuls, on était plusieurs à prendre le même plat.
Et surtout, des écritures sur plusieurs supports, dont la nôtre. C'est de ça dont on va parler en fait pour terminer. Donc, quelle a été notre pratique d'éditorialisation de la transcanadienne? Tout d'abord, une petite précision, c'est que au fur et à mesure, notre question de recherche était devenue la suivante. La littérature peut-elle constituer un outil de production de l'imaginaire spatial qui nous permet de nous réapproprier les lieux et les territoires en apparence dépossédés de toute valeur littéraire par les géants de l'information? Marcello l'a dit, mais là, c'est clair.
C'est pour ça que je te paye. Hein.
C'est vraiment la dernière communication de cette journée. Première chose, chose, un carnet de voyage qui a été tenu par Marcello, donc qui était le seul conducteur. Donc en fait, c'était vraiment quasiment un voilà, les combien de kilomètres ?
8000 aller-retour.
Tout seul. Donc c'était vraiment une sorte de journal de bord. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, vu que c'est...
Non, vas-y, continue.
D'accord, donc quand même juste une chose, c'est qu'avec ces 8000 kilomètres-là faits en 6 ou 7 jours...
Ouais, 4 jours à l'aller, 4 jours au retour, et la nuit on écrivait.
Voilà, donc la nuit il y avait ce carnet de bord, ce journal de bord qui était quand même tenu. Des cartes postales numériques, alors comme Marcello disait, moi je suis restée dans mon lit, j'ai pas fait le voyage avec eux, je pouvais pas pour des raisons de calendrier, mais je les ai suivis en fait sur Street View, donc c'était vraiment la même chose que dans le voyage de Pierre Renard et Anne Savelli. J'ai réalisé des captures d'écran. Mon idée était de réfléchir à la façon dont Google est en train de redéterminer ou de réinventer le paysage contemporain. Donc vraiment, quelles sont les images du Canada qui sont véhiculées sur Google Street View. Des choses assez intéressantes quand même à noter, par exemple, il n'y a jamais de neige ou presque au Canada sur Google Street View, c'est une chose un petit peu étrange. Carte postale, donc, parce qu'il y avait du texte, l'idée était de mettre toujours en tension ces images de Street View avec des textes littéraires francophones, puisque un des objectifs aussi de ce voyage était vraiment de repérer la francophonie tout le long de la transcanadienne. Un récit de voyage, donc nous aussi on a fait notre Storyfy, que vous pouvez d'ailleurs consulter tout à l'heure, on pourra vous donner l'adresse. Des lectures, donc lectures littéraires principalement. L'idée était aussi en fait de retweeter et de réintégrer de la littérature sur différentes plateformes. Je pense qu'il y a eu même de la littérature qui a été remise dans les commentaires de TripAdvisor, il me semble que vous avez fait ça.
Oui, on a détourné TripAdvisor. La chose intéressante des lectures, c'est qu'elles apparaissaient au fur et à mesure qu'on voyageait, parce qu'on s'arrêtait dans des librairies, et justement en découvrant des textes qu'on ne trouve pas partout, parce que si vous allez dans une librairie francophone au nord de l'Ontario, vous trouvez des livres que vous ne trouvez pas au centre-ville à Montréal. Donc l'idée, c'était que c'était l'espace qui nous proposait les lectures, d'une certaine manière. Et puis les livres parler de la route sur laquelle on était. Donc on essayait de ré-géolocaliser en tweetant les choses que nous étions en train de lire. C'était une forme d'appropriation de l'espace.
Voilà, donc vraiment essayer de remplir l'espace de poésie et de textes littéraires.
La question de la francophonie, pardon, revenait forte parce que nous étions un groupe francophone quand même qui traversait 4000 km à 90% anglophone, et le fait d'arriver dans des petits villages, communautés, surtout francophones, qui avaient une librairie, était quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport à comment nous envisagions cet espace-là.
Oui, donc d'où justement l'élément suivant qui est la question de la communauté, c'est-à-dire que pour le coup, on est parvenu à agréger finalement une communauté autour de ce voyage. Je pense à la libraire notamment, du nord de Londres, c'est ça, qui s'était mis du coup à nous suivre, des gens comme Patrice Desbiens. Et on a eu vraiment plusieurs écrivains, mais aussi des acteurs de la francophonie dans tout le Canada qui se sont mis à nous suivre et à conseiller aussi des choix musicaux, donc avec des vidéos YouTube sur les chansons de francophones.
C'est-à-dire qu'on négociait ensemble notre voyage et l'espace que nous vivions avec d'autres gens, notamment Pierre aussi était là, qui tournait, François Bon et d'autres, et toute une communauté qui commençait à voyager avec nous à distance, mais en ces faisant, justement, ils remplissaient eux aussi le même espace en disant « Ah tiens, ces villages-là, on en parle dans ce texte-là ou bien dans cette chanson, etc. »
Et donc, pour terminer, nous sommes parvenus à proposer finalement notre propre organisation de l'espace avec une carte augmentée qui essayait donc de géolocaliser à la fois nos propres écritures, mais aussi les autres récits qu'on avait pu rencontrer ici et là, des monuments historiques, des intérêts touristiques. Donc vraiment, on a éditorialisé de cette manière la transcanadienne.
Et en fait, l'idée, c'était ici justement d'utiliser, il nous reste 25 secondes, on était bon, c'était la dernière slide, en fait d'utiliser un outil qui ne soit pas Google Maps, On est passé par OpenStreetView. En fait, là, c'est vraiment le problème. Les API plateformes, bah, celle de Google, évidemment, marche mieux que celle de OpenStreetView. Donc, on a aussi des problèmes de réappropriation liés vraiment à des questions techniques. Et le fait, c'est est-ce que, à quelle mesure, la vraie question politique, c'est est-ce que, à quelle mesure, des actions de recherche-création de ce type-là ont vraiment un effet sur la structuration de l'espace. Elles en ont une, objectivement, mais dont le poids, évidemment, n'est pas comparable à celui que peut avoir une entreprise comme Google, d'où un peu un appel aux littéraires à éditorialiser nos espaces pour que nous en soyons encore plus protagonistes. Merci.